France Musique.
Alors moi, il m'épate.
Mazette, quelle musique ? Jean-Yves Larouturou, France Musique.
Vous avez beau dire, il n'y a pas seulement que de la pomme, il y a autre chose.
Bonjour à toutes et à tous, et heureux de vous retrouver pour Mazette. Quelle musique ! C'est la rentrée. Après nos aventures de l'été 2020, c'est à présent le dimanche à 14h que nous poursuivrons nos promenades, nos escapades musicales, sans frontières, sans passeport, sans confinement, avec pour seul guide l'enthousiasme, la fantaisie, le plaisir pour découvrir, pour se laisser saisir par la musique, avoir l'envie contagieuse, irrésistible de la réécouter, de la partager, de nous y replonger immédiatement. Voilà, c'est notre seule ambition. Allez, c'est parti. Thème de l'émission d'aujourd'hui, mais comme tous les premiers dimanches du mois, un thème à tonalité développement personnel. Il faut bien commencer, c'est un thème de circonstance.
Thank you.
Il faut bien commencer, et nous venons de bien commencer avec ce début du premier concerto pour piano du jeune Brahms. Il est âgé de 25 ans. C'est un maelstrom, maestoso. Brahms mettra encore presque 17 ans avant d'achever sa première symphonie, mais déjà avec ce premier concerto pour piano, ce jeune compositeur déclenche un vrai cataclysme symphonique. Longs tutti orchestraux, roulements de timbales, sauts violents, trémolo perçant. Il y a là quelque chose de tellurique, une puissance, une ampleur qui est sans précédent parmi les concertos de piano romantique. Pour ce premier opus pianistico-symphonique, la première œuvre d'une telle envergure dans le catalogue de Brahms, bien commencer, ça signifie donc impressionner l'auditeur, le saisir d'une manière impétueuse, le transporter dans un monde nouveau. C'est le résultat de deux, de presque trois années de travail, de recherche, de difficultés vaincues, de percées réussies. Bien commencer, ça demande de l'audace. C'est vrai lorsqu'on aborde un genre pour la première fois, comme Brahms pour ce concerto de piano qui est son premier concerto de piano, mais c'est encore plus vrai lorsqu'il s'agit en même temps de créer une œuvre nouvelle, mais aussi de créer un nouveau genre musical. Ça n'arrive pas tous les jours. Mais prenons l'opéra, par exemple. Comment commencer, comment bien commencer un opéra? On connaît précisément la chronique de la naissance du genre opéra en Italie. Premier essai en 1597. C'est Jacopo Peri qui crée la Daphné pour les Médicis à Florence. Il nous reste rien de la musique, donc difficile de savoir comment ça débutait. Deuxième étape en 1600. Et en 1600, il y a trois œuvres dramatiques qui sont représentées sur scène avec musique et costumes. La première à Rome, c'est la représentation de l'âme et du corps de Cavalieri. Ça commence par un cantique en forme de madrigal, comme on en a composé à tour de bras à l'époque dans la péninsule. Pas très original, pas très fondateur. Et puis en octobre et en décembre 1600, c'était à l'occasion des festivités du mariage de Marie de Médicis et d'Henri IV, c'est à Florence, et il y a deux Eurydices qui voient le jour à ce moment-là, les deux sur le même livret, l'une qui est composée par Peri et l'autre qui est composée par Caccini, qui est son collaborateur et son rival. Les deux partitions ont été éditées quelques semaines plus tard et on les a toujours. Ça permet de voir comment ça commence, et ça commence ex abrupto, directement sur le récitatif du personnage qui chante le premier, c'est une allégorie de la tragédie.
Io che t'alti sospir vaga e di pianti sparsur di d'ognor di minacci volto fei negli ampi teatri al popol fulto scolonir di pietà volti e sembianti.
Et la troisième étape, eh bien, c'est l'Orfeo de Monteverdi, qui est représenté à Mantoue, au Palazzo Ducale, le 24 février 1607. Et là, comme pour Brahms, Monteverdi veut impressionner, il veut saisir le spectateur, il veut marquer dans la musique une césure entre le monde d'avant le spectacle et puis le moment où on entend la voix du premier personnage. Et pour ça, il décide de faire une courte pièce instrumentale. C'est une toccata, elle doit être jouée trois fois par tout l'orchestre avant le lever du rideau, c'est ce que précise la partition. Et ce faisant, Monteverdi fixe un principe général. Il y aura quelques rares exceptions, mais vraiment rares. Désormais, pour bien commencer un opéra, c'est un tout nouveau genre de musique, eh bien, on débute par de la musique orchestrale, une brève sinfonia, une ouverture plus ou moins longue, un prélude, une toccata. la toccata introductive de l'Orfeo en 1607, et c'est sans doute pas un hasard que ce soit d'ailleurs avec l'arrivée de Monteverdi dans le jeu, avec Peri, avec Caccini, avec Cavalieri, que ce principe soit posé d'une musique introductive. En effet, Monteverdi, c'est un vrai créateur. Il a passé sa vie à créer des nouveaux styles, vraiment nouveaux, radicalement nouveaux. Et c'est sans doute le seul à avoir compris que l'enjeu de tout cela, à la fin du XVIe, au début du XVIIe siècle, c'est pas la prétendue recréation de la tragédie antique chantée, ce qui était l'objectif des deux Florentins, Peri et Caccini. C'est autre chose. Et quand il est sommé par son maître, le duc de Mantoue, de faire mieux que les deux Florentins, eh bien Monteverdi s'emploie vraiment à concevoir et à créer quelque chose de nouveau, un genre nouveau. Et c'est pour ça qu'il est bien l'inventeur du premier opéra. Il fallait bien commencer, et c'est Monteverdi qui l'a fait. Et une fois acquis ce principe général d'une introduction orchestrale, il reste à savoir ce que l'on en fait pour bien commencer un opéra en particulier. Alors nous allons prendre un exemple, pas n'importe lequel. C'est l'opéra qui est considéré par beaucoup comme le plus bel opéra du XVIIe siècle. Peut-être même d'ailleurs au-delà, c'est le premier opéra sur un sujet historique et politique. C'est très shakespearien, avec un mélange de sérieux et de bouffe impressionnant. Une amoralité ébouriffante aussi, c'est le couronnement de Poppée. C'est aussi sans doute le premier opéra avec une vraie diva, Poppée, une diva assoluta. Il est créé à Venise pour le carnaval 1643 sur une musique qui semble être de Monteverdi. Tous les experts ne sont pas d'accord. C'est une musique juvénile, éblouissante d'un jeune compositeur qui, si c'est Monteverdi, a tout de même passé les 75 ans. Il fallait bien commencer. Je ne vais pas vous raconter l'histoire parce que c'est un feuilleton à rebondissement croquignolesque de la redécouverte de l'œuvre. On croyait qu'elle était perdue, sauf le livret. Et puis on a trouvé deux partitions. L'une à Venise en 1888 et l'autre à Naples en 1930. Ni l'une ni l'autre ne sont la partition originale de 1643. Elles diffèrent dans beaucoup de points, et notamment elles diffèrent s'agissant de la sinfonia d'ouverture juste avant le prologue. Si on prend la partition de Venise, la sinfonia d'ouverture de l'opéra, c'est très peu de choses. 16 mesures répétées. Qu'est-ce qu'il faut faire de 16 mesures pour bien commencer? 5 réponses assez différentes à partir de ces mêmes 16 mesures. Et d'abord à Zurich en 1954. Trop wagnérien, aurait sans doute dit Stravinsky. Allez, on continue. À Vienne en 1974. À Montpellier en 1990. même durée pour tout le monde. On passe maintenant à Pigna dans la Balagne, en Corse, en 2004. Enfin, au Festival de Salzbourg en 2018. Très impressionnant d'arriver à faire des choses aussi différentes sur les mêmes 16 mesures. En tout cas, le modèle est fixé depuis 1607, donc il va évoluer, mais il va évoluer lentement. Un siècle exactement après l'Orfeo de Monteverdi, à l'hiver 1707, donc, Alessandro Scarlatti fait représenter à Venise il primo omicidio, ovvero Caïn, c'est-à-dire le premier homicide ou Caïn. Je prends les devants parce que je sens bien que certains sont tentés de dire des choses du style « Caïn et Abel, le premier homicide ». Il fallait bien commencer, en effet. Nous allons éviter ce genre de plaisanterie de corps de garde. Écoutons plutôt le premier volet « Spiritoso », « Spiritoso », j'espère que tout le monde l'a noté, de l'introduction de ce drame. Voilà, le style n'est pas tout à fait le même, mais le concept est toujours le même, et c'est ça qui le frappe d'ailleurs. Dans ces introductions orchestrales qui sont la règle depuis l'Orfeo, elles jouent parfaitement leur rôle, c'est-à-dire ce que Monteverdi souhaitait, saisir l'auditeur, marquer une césure musicale avant le début du spectacle. Musicalement, c'est plus ou moins génial, ou parfois affligeant de platitude, mais de toute façon, on ne dit rien sur ce qui va suivre, et les experts d'ailleurs affirment qu'il faut attendre 1749 et Zoroastre, la quatrième tragédie lyrique de Rameau, pour entendre une ouverture orchestrale qui prépare l'auditeur au drame qui va suivre. Il faut bien commencer. En effet, avec Zoroastre, Rameau fait la révolution. Notamment, il supprime le prologue mythologique et politique qui était une règle absolue en France depuis presque 80 ans. Et il écrit une ouverture qui rompt aussi avec l'ouverture à la française, en rythme pointé, en trois parties, lent, vif, lent. C'est à nouveau une très belle ouverture en deux parties, et comme le précise le livret, la première partie est un tableau fort et pathétique du pouvoir barbare d'Abraman, c'est un funeste et sadique individu, ça c'est moi qui l'ajoute, et des gémissements des peuples qui l'oppriment, y compris par la torture aussi bien physique que morale, ça c'est encore moi qui l'ajoute. Un doux calme succède, l'espoir renaît, la seconde partie est une image vive et riante de la puissance bienfaisante de Zoroastre et du bonheur des peuples qu'il a délivré de l'oppression. Mazette, quelle histoire ! Quelle musique ! Il faut bien commencer, et à l'instar de cet ignoble Abraman, on peut ne pas avoir beaucoup de scrupules pour arriver à ses fins. Certains, avec des mines de chanoine, n'hésitent pas à voler l'idée musicale, voler la mélodie d'autrui, se l'approprier pour bien commencer une œuvre. D'autres le font avec un peu plus d'élégance, l'élégance du gentleman cambrioleur. Ça passe mieux, il arrive même que les biographes préfèrent passer l'affaire sous silence. Allez, on prend un cas qui est couvert par la prescription. Le Gloria de Francis Poulain, créé en 1961, un très bon millésime. Comme vous allez le constater, pour écrire ce chef-d'œuvre, Poulain, alias Arsène Lupin, n'hésite devant rien, ni une ni deux. Il s'empare du thème initial de la sérénade en la composée par Stravinsky en 1925. Et comme dans les meilleurs romans policiers, il ne cache pas l'objet volé, il l'expose bien en vue dans un cadre rutilant. Au tout début du Gloria, il fallait bien commencer, mais dans quel monde vivons-nous? Allez, on entend le thème volé et immédiatement après le chef-d'œuvre d'orfèvrerie dans lequel Poulain a enchâssé le fruit de sa rapine. Homicide, torture, pillage, il est temps de changer de registre. Bien commencer, ça ne signifie pas forcément systématiquement de devenir délinquant. On peut bien commencer en se comportant bien, voire même en se comportant de manière exemplaire. Par exemple, le jeune Ludwig van Beethoven, il est arrivé à Vienne en 1792, c'est l'année suivant la mort de Mozart, qui est le compositeur qu'il révère. Il a suivi, non sans qu'il y ait quelques frottements, l'enseignement du père Haydn. Il vient de publier les trios de son opus 1 et quelques premières sonates. Il cherche l'occasion de son premier concert public. Il faut bien commencer. Ce sera le 29 mars 1795, lors du concert donné au Burgtheater au profit des veuves et orphelins de la Société des artistes musiciens. À l'entracte, Beethoven livre en première audition son premier concerto pour piano. Et pour des raisons qu'on va laisser aux spécialistes, ce premier concerto composé avant le concerto numéro 1 est connu comme le concerto numéro 2. Vous m'avez suivi, j'espère. Les gazettes disent que ce concert a rencontré un grand succès, notamment Beethoven avec cette première. Et ce succès, lors de ce concert caritatif, va évidemment lancer la carrière de Beethoven. Le lendemain, le 30 mars donc, Beethoven interprète toujours dans cette série de concerts caritatifs un concerto de Mozart, très vraisemblablement l'admirable concerto en ré mineur. À la fin du premier mouvement, au moment de la cadence, vous savez ce qu'est la cadence, c'est le moment où, vers la fin d'un mouvement, l'orchestre s'arrête, laisse le soliste seul, ici le pianiste, il improvise en faisant la preuve de ses talents de musicien, imaginatif, virtuose, et puis, surtout si le chef d'orchestre reste bien attentif, tout le monde reprend au moment idoine et achève le mouvement. Et donc ce 30 mars 1795 au Burgtheater, Beethoven joue à la fin du premier mouvement la magnifique cadence qu'il a conçue pour ce concerto de Mozart, qui est le concerto qu'il préfère. Nous écoutons donc cette merveilleuse cadence, écrite par Beethoven pour le 20e concerto de Mozart. C'est Murray Peraya qui est au clavier et à la direction de l'English Chamber Orchestra. Il joue donc à la fois le rôle de Mozart et le rôle de Beethoven, et nous le rejoignons juste avant cette fameuse cadence.
Thank you.
Mazette, quelle musique ? Jean-Yves Larouturou, France Musique.
Bien commencé, certes, mais avouons-le, on n'y parvient pas toujours. Et on va s'intéresser au cas de Camille Saint-Saëns. Vous savez, on célèbre cette année le centenaire de sa mort en décembre 1921. En 1864, Saint-Saëns compose son premier opéra, le Timbre d'argent, sur un livret qui a été troussé par le fameux duo Barbier et Carré, celui qui a écrit les livrets de Faust, des contes Hoffmann, d'Hamlet, de Mignon, etc., etc. L'argument du Timbre d'argent est complexe, un peu fantastique, bien mené, il y a des réminiscences de Faust, de Robert le Diable, etc. Mais l'histoire de la création de ce premier opéra de Saint-Saëns est au moins aussi complexe. C'est un vrai combat, il y a des retards, des ajournements, il y a la faillite du théâtre lyrique, puis celle du théâtre de la Gaîté, la guerre de 60, qui empêche que l'œuvre soit créée à l'opéra comique. À plusieurs reprises, Saint-Saëns remanie l'ouvrage. Il a toujours l'espoir de le voir créer à l'opéra comique. Mais il faudra attendre 13 ans après l'achèvement de la partition pour qu'il soit créé au Théâtre Lyrique à Paris, pas à l'opéra comique. Et il faudra attendre 2017 pour que l'œuvre soit enfin donnée à l'opéra comique. Donc c'est un long combat, poursuivi même de manière posthume. Il n'est pas toujours simple de bien commencer. Alors Hélène Guillemette va me pardonner, je pense, un jour, mais j'ai hésité, et pire encore, j'ai choisi finalement la version de Ninon Valin pour cette air que nous allons écouter, et que Ninon Valin elle-même a chanté devant Camille Saint-Saëns, le compositeur. C'est un enregistrement de 1929, alors autant l'avouer tout de suite, ça gratte incontestablement, ça gratte beaucoup, et pour ceux que le charme de Ninon Valin ne suffirait pas à convaincre, et qui ont une vraie répulsion pour ces gratouillis, trois remarques, premièrement c'est dommage, deuxièmement c'est promis, cette émission n'est pas destinée à venir un remake de Vieillissir. Et troisièmement, si vous avez trois minutes devant vous, puisque vous n'écouterez peut-être pas, prenez un café ou faites quelques exercices d'assouplissement. Pour les autres, je vous propose d'écouter cette romance du deuxième acte. Elle est accompagnée par un violon seul. Et Ninon Valin va nous susurrer avec sa voix sublime « Le bonheur est chose légère, passagère ». On croit l'atteindre, on le poursuit, il s'enfuit. C'est trop vrai, surtout lorsque tout n'a pas bien commencé. Mal commencé arrive et cela peut même être tout à fait raté. Vous vous souvenez peut-être de ce qui va suivre, un ratage total, au point qu'il faut arrêter l'orchestre très vite après le commencement. Les violons doivent s'accorder, ils avaient oublié de le faire. Il va falloir reprendre le morceau depuis la première mesure. Il aurait été mieux de bien commencer, c'est bien pénible, sauf si c'est le malicieux compositeur lui-même qui a tout organisé.
Thank you.
quelle musique c'était, vous l'avez sans doute reconnu, l'inénarrable prestissimo final de la 60e symphonie, le Distrait de Haydn. Plaisanterie musicale réussie s'il en est. Elle déclenche les rires et les applaudissements en concert. La surprise crée la réussite. Quel beau commencement. Autre exemple qui surprend et qui fait d'un commencement très inattendu une très belle réussite, inoubliable. Est-ce que vous connaissez ce sublime mouvement lent d'un concerto pour violoncelle ? De quoi s'agit-il ? Vous n'avez pas le droit d'appeler Frédéric Lodéon pour avoir la réponse, ce serait trop commode. Et non, ce n'était pas l'admirable adagio d'un concerto pour violoncelle, c'était les admirables quatre premières minutes de l'ouverture de Guillaume Tell de Rossini. Ça commence donc très bien, mais de manière inattendue, et ça se poursuit par un orage, puis ensuite le très pastoral et helvétique Rance des Vaches, et puis tout ça est interrompu par une charge de cavalerie qui deviendra un vrai standard de la cartoon music plus tard. La surprise, l'inattendu, c'est une bonne façon de bien commencer. Tiens, prenons donc un standard de jazz bien connu, I Got Rhythm de George Gershwin, sur des paroles de son frère Ira Gershwin. Un standard qui a connu un succès incroyable, qui a été chanté par tout le monde à peu près depuis sa création en 1930, qui a été repris dans plusieurs comédies musicales, dans plusieurs films aussi. D'ailleurs, vous vous souvenez peut-être de la scène mythique d'Un Américain à Paris où Gene Kelly apprend ce standard et l'anglais en même temps à toute une bande de jeunes gaillards et de poulbeaux de Montmartre. Pour surprendre l'auditeur, supprimons les deux premières strophes. On attaque directement sur « I got rhythm, I got music, I got my man, who could ask for anything more ?»« J'ai le rythme, j'ai la musique, j'ai mon homme, que demander de plus ?» Supprimons même toute introduction instrumentale et à la place, pour bien commencer, surprise, des claquements de doigts.
« I got rhythm, I got music, I got my man, who could ask for anything more ?» I got daisies in green pastures. I got my man who could ask for anything more. Old man trouble, I won't find him. No, no, round my door. I got starlight, I got daydreams, I got my man. Ask for anything more, who could ask for anything more? I got rhythm, I got music, I got my man, who could ask for anything more? I got Daisy in green pastures, I got my man, who could ask for anything more? Man trouble, I won't find him, you won't find him around my door.
Pas la meilleure prise de son de l'histoire de l'enregistrement, sans doute. Mais enfin, c'était Sarah Vaughan et ses musiciens à Stockholm en janvier 64. Un standard connu, rabâché, mais tout ce qu'il faut pour très bien commencer, surprendre l'auditeur, le saisir, ne plus le lâcher. Tiens, de la musique afghane. On reconnaît le tabla, le petit tambour, et puis surtout le sarod, le sitar, qui sont deux types de luth à grands manches, l'influence de la musique de l'Inde du Nord et de la musique persane à la fois. C'est un ensemble de très jeunes musiciens et de musiciennes de l'Institut National de Musique d'Afghanistan, de Kaboul, qui jouent cette pièce. Ils sont encore en train d'apprendre à jouer, ça s'entend d'ailleurs. Ils font partie de ce Conservatoire National de Musique Afghane. Depuis 2010, cet institut a été la cheville ouvrière de la renaissance, de la reconstruction, on pourrait même dire, en Afghanistan, de la musique savante et traditionnelle afghane, puisque pendant toute la période de l'occupation soviétique et puis pendant le régime taliban aussi, les musiciens avaient été réduits au silence, certains emprisonnés, assassinés même, et les instruments détruits. Il fallait donc bien recommencer et il fallait tout simplement commencer en fait et prendre des initiatives tout à fait nouvelles. C'est ainsi qu'a été créé au sein de l'Institut en 2014 le premier orchestre afghan composé de jeunes musiciennes exclusivement avec des instruments traditionnels afghans, les différents types de luth à long manche, notamment le magnifique rabab recouvert de parchemin. Vous le voyez sur le site de l'émission, c'est un instrument absolument magnifique, c'est l'instrument national afghan. Et puis également des instruments occidentaux, par exemple les violons qui sont utilisés d'ailleurs depuis longtemps dans la musique afghane, puisque ça date de l'occupation britannique au XIXe siècle. Cet orchestre d'une bonne trentaine de musiciennes a fait une très belle tournée en Europe en 2018, donc un très beau démarrage, un très beau commencement. Il s'appelait Zora, Zora c'est le nom en arabe et en persan aussi de la divinité de la beauté de la musique. Que devient aujourd'hui l'Institut? Que deviennent ses 300 élèves? Que deviennent les ensembles musicaux, notamment cet orchestre Zora? Qui peut le dire? Et je crois qu'il n'y a aucune raison d'être optimiste, malheureusement. Nous allons écouter l'orchestre Zora dans une chanson traditionnelle intitulée Sakina. Sakina, dans plusieurs sourates du Coran, c'est un don d'Allah, le réconfort, la sérénité, la quiétude, d'une actualité bouleversante, on ne saurait mieux dire aujourd'hui. Thank you.
France Musique, Mazette, quelle musique ? Jean-Yves Larouturou.
Sur le coup de 3 heures. Je vois que certains se demandent ce que l'on vient d'entendre. C'est le début d'une petite œuvre vocale qui s'intitule Lazing on a... Excusez-moi, je suis désolé. Loi tout bon oblige, je repasse en français. Veuillez me pardonner. Le titre veut dire quelque chose comme « sans s'en faire, en prenant du bon temps, en paraissant un dimanche après-midi ». Quel à propos. Le poème qui est mis en musique dit ceci. « Je sors travailler le lundi matin, mardi je pars en lune de miel, je serai de retour avant le coucher du soleil, je vais paresser le dimanche après-midi, faire du vélo tous les mercredis soirs, jeudi je vais valser au zoo, j'arrive de Londres, je suis juste quelqu'un d'ordinaire, vendredi je vais peindre au Louvre, je me suis engagé à faire ma déclaration samedi soir, je prends du bon temps le dimanche après-midi. » Vous verrez, musicalement c'est court, mais c'est assez intéressant. La reprise se fait sur un intervalle de quarte augmenté au-dessus de la tonalité de départ, c'est le triton, le fameux Diabolus in Musica de la musique médiévale. Nous allons écouter cette pièce dans l'interprétation de l'ensemble instrumental et vocal Rennes, sous la direction de Frédéric Mercury. L'introduction instrumentale de cette petite œuvre sera le générique pour nos petites pauses sur le coup de 3 heures. Je ne sais pas ce que vous en pensez comme ça aux débeautés, mais il me semble que sur le coup de 3 heures, le dimanche après-midi, nous pourrions nous accorder un petit feuilleton ou une petite badinerie. Qu'est-ce qu'une badinerie ? Selon l'Académie française, c'est une bagatelle, une chose frivole, d'un caractère enjoué et plaisant, de gaieté légère, avec ce qu'il faut d'humour et de malice. Ça peut même être une petite pièce de musique rapide et légère. Eh bien, écoutons une badinerie. Et même, allez, 3 pour le prix d'une, pour bien commencer.
So, oh, what do you say we take a little stroll around the city? Go, baby, go, baby, go, baby, go. Sip and shake and eat the shopping. Then go dancing to be dropping. Whirl around and wiggle like I always make you giggle when the two of us are moving. All the universe is grooving and the rhythm gets us holding all our cares away. Hey baby, you know it's true. You and me got it boosted together. Step baby, do what you do. People say you're crazy, disconnected, maybe hazy, but they haven't got a notion of the power in your motion and the simmer in your potion takes my breath away. Don't walk out that door, I'm saying. Life's a song and we are playing. You can change your body, it's never really wrong. Short and sweet with a beat, with a bone. Make it short, make it long, but some of it just staying. Hey baby, you know it's true. You and me got about stay together. Step baby, do what you do. People say you're crazy, disconnected, maybe hazy, but they haven't got an ocean and the power of any motion and the simmer in your potion takes my breath away. You are all my eyes are seeing now that we're by dinnering. Bach was smiling when he wrote this little song. So I'll smile and again I will say, every single day, will you stay? Oh, baby, oh, you stay and stay, stay.
Merci à Juliette Hurel, magnifiquement accompagnée par l'ensemble Les Surprises et Louis-Nicolas Bestion de Camboulas. Merci à Noah pour ce pétillant No Baby et merci à Gustav Mahler puisque la troisième badinerie de ce dimanche est un extrait de son arrangement, de son pot-pourri des deuxième et troisième suites de Bach qu'il avait réalisé pour la Philharmonie de New York en 1909. On recommencera la semaine prochaine avec d'autres badineries sur le coup de 3 heures. Allez, reprenons. Il faut bien commencer et nous savons tous un principe capital comme il faut bien commencer, ça s'applique de 6 à 106 ans, voire même avant, quand il faut aller à la crèche, puis à l'école maternelle. Voilà, c'est pas toujours facile. Je ne m'étends pas sur ce sujet sur lequel j'ai mon opinion personnelle. Ce serait peut-être indélicat, surtout 3 jours après la rentrée scolaire. Bien commencer, c'est aussi un bon principe pour le premier emploi ou tout au long de la vie professionnelle, d'ailleurs, même lorsqu'on prend un nouveau poste. Et là aussi, il faut bien commencer. Le 22 mai 1723, Bach arrive à Leipzig avec toute sa tribu et le dimanche 30 mai, premier dimanche après la Trinité, il présente sa première cantate comme cantor et directeur de la musique, fonction dans laquelle il va être intronisé le lendemain. Il est venu spécialement passer plusieurs entretiens d'embauche, il a exécuté début février 1 ou 2 cantates, ça s'est très bien passé. Les gazettes locales et même jusqu'à Hambourg ont dit que c'était vraiment une réussite, l'affaire était d'importance. Donc, suite à cette audition probatoire, Bach a été retenu à l'unanimité du conseil municipal. Le 30 mai, l'enjeu pour la première cantate du cantorat est d'une autre nature. Ça se passe à Saint-Nicolas et non pas à l'église Saint-Thomas. Le tout Leipzig se presse. Bach souhaite évidemment démontrer qu'il peut impressionner, enthousiasmer non seulement les autorités, les bourgeois plus ou moins amateurs et éclairés, mais aussi la fine fleur de l'intelligentsia de ce centre économique, universitaire et culturel reconnu dans tous les pays germaniques et au-delà qu'était Leipzig. L'événement est donc autant un événement mondain qu'un événement religieux, artistique. Voilà, il faut bien commencer. Et donc Bach a composé une cantate de vaste dimension. 7 morceaux avant l'homélie, 7 morceaux après l'homélie. Il y a de quoi épater tout le monde. Finesse théologique du discours, pompe solennelle avec trompes et hautbois, ça peut plaire aux autorités. Génie musical qui allie les styles sophistiqués comme par exemple la fugue du chœur initial ou la symphonie introductive de la deuxième partie. Tout ça avec goût élégance et des danses qui apparaissent ça et là. Voilà. On va écouter le chœur final. Tout le monde en a pour son contentement. Vous allez voir. C'est une fantaisie chorale. La partie chantée est un cantique luthérien, un choral d'église dont le texte et la musique sont connus de tout le monde depuis l'enfance. Et donc, de manière automatique, quasi inconsciente, ça rappelle à chacun et chacune quoi? Que ce que Dieu fait est bien fait, que pauvre ou riche, il faut rester serein face aux difficultés de l'existence, que le réconfort viendra après, dans l'éternité. Cette mélodie de chorale est enserrée dans une guirlande de musique très dansante. Et en plus, la mélodie de cette guirlande de musique, c'est la mélodie du choral, un peu syncopée et chaloupée. Donc, vous en sortez ravis. Vous êtes épaté de la musique que vous avez entendue, tout à fait à la mode, à la modiche, comme on dit à ce moment-là à Leipzig. Vous sifflotez la mélodie dansante et cette mélodie inconsciemment vous rappelle le cantique et son propos religieux et social. C'était vraiment bien commencé et effectivement, ce fut accueilli mit gutem applausu, ce qui veut pas dire avec des applaudissements, on n'applaudit pas dans l'église Saint-Nicolas tout de même, mais avec une très grande satisfaction, c'est ce que nous disent les meilleurs spécialistes, dont Gilles Cantagrel. Bien commencer en présentiel, c'est donc crucial. Mais ça n'est pas moins important lorsque vous êtes en visio, en conférence téléphonique, pire encore lorsque vous êtes enregistré. Et le premier enregistrement est un enjeu majeur. À l'automne 1946, il y a 75 ans donc, c'était à l'époque des 78 tours encore, Walter Legg, directeur artistique de la Columbia, est à Vienne pour recruter de nouvelles voix, des nouveaux talents pour sa firme de disques. Karajan, qui est dénazifié depuis très peu de temps, mais qui est encore interdit de scène, de fosse d'orchestre, pas de studio d'enregistrement, recommande à Legge une jeune soprano, c'est Elisabeth Schwarzkopf, potentiellement notre meilleure chanteuse, dit Karajan. Sur le champ, Legge fait passer à Schwarzkopf, qui sera bientôt sa femme, une audition qui s'éternise parce qu'ils sont en train de couper les cheveux en quatre sur un lit de Wolf, et ces deux perfectionnistes se régalent. Mais Karajan s'impatiente. Il finit par quitter la salle en disant à Legge « Cessez de torturer la petite, je vous ai dit que c'était la meilleure ». Quelques jours après, premier enregistrement de disque de Schwarzkopf. En fait, elle était déjà dans l'enregistrement historique de la Flûte enchantée de 1937 à Berlin, mais c'était anonyme, elle était dans les chœurs. Et puis elle a fait quelques enregistrements, des enregistrements de radio pendant la guerre. Donc c'est vraiment son premier enregistrement de disque. Il faut bien commencer, mais alors, quelle audace, quelle bravade, pourrait-on dire, de choisir pour ce premier enregistrement de disque un des airs les plus difficiles de Mozart, et d'ailleurs tout le répertoire lyrique, un air d'une virtuosité redoutable, avec des coloratours, des passages très dramatiques, des tris, tenues, il faut avoir une voix très étendue aussi, c'est un air concertant, c'est-à-dire que, en plus de tout ça, la voix doit rivaliser avec des instruments solistes très virtuoses, le hautbois, la flûte, le violon, le violoncelle. C'est l'air de bravoure de Constance au milieu du deuxième acte de l'enlèvement au sérail. Constance déclare qu'elle méprise les tortures de toutes sortes, Martin à leur Harten, mais ce n'est pas la seule raison, nous l'avons compris, pour laquelle on appelle cet air de soprano le Martin Arial, l'air des tortures. Nous allons écouter la première partie de cet air de Constance, premier enregistrement d'Elisabeth Schwarzkopf avec l'accompagnement somptueux de la Philharmonie de Vienne, dirigée par Karajan, bien sûr. C'était un son d'il y a 75 ans exactement. Il a son âge, mais prêtons l'oreille. Comme l'a dit André Tuboeuf, de cet air redoutable, la jeune soprano ne fait que vocalise, panache, dramatisme, la voix est glamour, proche de la perfection de ton et de couleur. « Rien ne me fera trembler », chante Schwarzkopf, alias Constance. Premier jour dans un nouveau poste, premier enregistrement, première œuvre, il faut bien commencer. Alors attention, il ne faut pas toujours se fier au numéro d'opus et au catalogue. Par exemple, l'opus 1 de Schubert, c'est le fameux Roi des Aulnes. Et selon le catalogue chronologique Deutsch, c'est en fait la 328e œuvre de Schubert. Bon, mais enfin, pour autant, souvent, l'opus 1, c'est la première œuvre publiée. C'est effectivement la première œuvre reconnue comme valable par un jeune compositeur et son entourage. Il faut bien commencer. Deux exemples, l'un et l'autre magnifique. D'abord, le premier livre de Madrigaux de Schütz. Il n'en aura pas de second, d'ailleurs. Comme tant d'autres musiciens, peintres, poètes aussi, au cours des siècles, Heinrich Schütz quitte les terres impériales germaniques pour un très long séjour d'apprentissage en Italie, à Venise, auprès de Gabrielli, maître de chapelle à Saint-Marc. En 1611, deux ans après son arrivée à Venise, il publie ce premier livre de Madrigaux, son opus 1, en quelque sorte le chef-d'œuvre du compagnon qui a terminé son apprentissage et qui va partir dans la maîtrise de son art et sera désormais lui-même un maître, sans doute le plus grand compositeur allemand avant Bach d'ailleurs. Ces 19 madrigaux sont autant de joyaux. C'est la quintessence de la prima pratica au moment où Monteverdi passe à autre chose. Ils sont tous magnifiques. J'en tire un au sort. Allez, le 7e, Ride la Primavera. Alors, c'est une histoire qui semble commencer bien, le printemps nous sourit, mais la belle Cloris, finalement, est de marbre. Pire que ça, pourquoi donc, cruelle fillette, porter dans les yeux le soleil et les frimas sur le visage ?
Oh.
Deuxième exemple, c'est l'opus 1 de Karol Szymanowski. Karol Szymanowski, grand compositeur polonais, grand compositeur tout simplement, anormalement négligé d'ailleurs, comme Martinou et d'autres, on y reviendra sans doute un jour. Dans son opus 1, il publie l'année de ses 18 ans un ensemble de pièces qu'il appelle préludes, qui sont toutes composées pendant son adolescence. On est encore loin de la luxuriance orchestrale, de la sensualité des grandes œuvres de la maturité de Szymanowski, le premier concerto pour violon, la troisième symphonie par exemple. Mais ces préludes sont de la très belle musique, frémissante, déjà très lyrique. Il faut bien commencer et là c'est un beau commencement. La correspondance de 15h21. Et oui, il ne faut pas rater la correspondance de 15h21. C'est le moment de partir pour une escale, un détour qui le mérite, un point de vue remarquable, une destination, un horizon différent, sans trop nous écarter du sujet du jour tout de même. La correspondance pourra être littéraire, musicale, picturale, gastronomique aussi, cinématographique, géologique, astronomique également, pourquoi pas. Vous vous demandez peut-être d'où provient le petit générique que nous venons d'entendre. C'était manifestement un orchestre en train de s'accorder. Un mouvement fugué, ça nous rappelle d'ailleurs la célèbre pensée de Max Dosolm le 16 décembre 2020, on s'en souvient tous, au royaume du contrepoint, la fugue est reine. C'est la bande-son du générique et des premiers instants de la nuit américaine. La nuit américaine, vous savez, c'est une technique de tournage qui fait qu'on tourne le jour une scène qui est censée se passer de nuit à l'extérieur. La nuit américaine, c'est surtout un film sur le cinéma lui-même. C'est la chronique tour à tour humoristique, émouvante, profonde, du tournage d'un film au studio de la Victorine, près de Nice. À l'écran sont des acteurs magnifiques, Jacqueline Bisset, sublime, Jean-Pierre Léo, Jean-Pierre Aumont, Valentina Cortese, Truffaut lui-même d'ailleurs, Nathalie Baye, et puis des seconds rôles parfaits, dont Graham Greene d'ailleurs, qui arrive à tourner un petit rôle à l'insu de Truffaut lui-même. Il se fait passer pour un retraité qui aime bien le cinéma et qui aimerait bien avoir un petit rôle, c'est tout. Et puis, c'est aussi la musique d'un grand compositeur de films pour le cinéma français comme pour le cinéma américain. On lui donne notamment ce thème envoûtant, splendide, du Mépris de Godard en 1963. C'est Georges Delerue. Le film La Nuit Américaine sort en mai 73, c'est un grand succès. Jean-Luc Godard écrit tout de suite une lettre agressive, passionnément ordurière à Truffaut, c'est la fin d'une très belle amitié qui avait été très passionnée et féconde aussi. Le film reçoit l'Oscar du meilleur film étranger, ce qui n'est pas rien, le 2 avril 74 à Hollywood, et ça passe complètement inaperçu en France parce que à Paris, le 2 avril 74, est annoncée la mort du président de la République en exercice, Georges Pompidou. Question. Comment faire quand un film n'a pas parfaitement bien commencé? Réponse de Ferrand, le réalisateur de Je vous présente Pamela, joué par Truffaut lui-même dans La Nuit américaine.
Nous voici arrivés au milieu de l'aventure. Avant de commencer un tournage, je désire surtout faire un film qui sera beau. Dès que les premiers ennuis surgissent, je dois réduire mon ambition et je me prends à espérer simplement qu'on arrivera à terminer le film. Vers le milieu du tournage, je fais un examen de conscience et je me dis « Tu aurais pu travailler mieux, tu aurais pu donner davantage. À présent, il te reste la seconde moitié pour te rattraper. » Et à partir de ce moment, je m'efforce de rendre plus vivant tout ce qui sera montré sur l'écran. Je vous présente Pamela, me semble enfin lancée sur de bons rails. Les acteurs sont à l'aise dans leurs personnages. L'équipe est bien soudée. Les problèmes personnels ne comptent plus. Le cinéma règne.
Prendrons la correspondance de 15h21 dès dimanche prochain. J'allais oublier de vous dire avant qu'on se quitte, je l'avais promis en début d'émission, de qui est la citation « Il faut bien commencer ». Eh bien, elle est de Debussy. Debussy, le 25 juin 1910, monte sur la scène de l'Opéra de Paris. Pourquoi monte-t-il sur la scène de l'Opéra de Paris? Parce que sur la scène du Palais Garnier se trouve la troupe des ballets russes, notamment la grande Karsavina. Il y a aussi le chef d'orchestre Gabriel Pernet, qui est aussi un compositeur, et puis Léon Bakst, Golovin, qui ont fait des costumes et des décors absolument fameux. Tous reçoivent les ovations du public enflammé. C'est un vrai triomphe et celui qu'on acclame le plus, c'est le compositeur de la musique du ballet qui vient d'être créé à Paris. C'est le jeune compositeur russe quasi autodidacte, inconnu sauf et encore dans le microcosme musical de Saint-Pétersbourg. C'est Igor Stravinsky, compositeur de L'Oiseau de Feu. Et c'est donc lui qui, devant le tout Paris, non seulement de la musique, de la danse, des arts, des lettres, mais aussi de l'industrie, de la diplomatie, de la banque, de la politique, le tout Paris, quoi, c'est lui qui reçoit l'accolade de Claude Achille Debussy, qui est alors au summum de sa gloire dans ces années trépidantes de l'avant-guerre. Il est le pape de la musique française, comme on dirait, sur les chaînes d'information continue. Et par cette accolade spectaculaire, Debussy adouble Stravinsky, le reconnaît comme un de ses jeunes pères. Et c'est le début d'une amitié qui durera jusqu'à la mort de Debussy en 1918 et qui restera fondamentale pour Stravinsky. Mais bientôt avec Petrouchka que Debussy admire, l'année suivante en 1911, et surtout avec Le Sacre du Printemps. dont Debussy découvre avec stupéfaction la musique, Stravinsky franchit de nouvelles étapes à une allure incroyable. L'Oiseau de feu a pris son envol, il devient non seulement à Paris, mais dans toute l'Europe musicale, le compositeur le plus en vue, et Debussy sent qu'il y a là quelque chose qui le dépasse. Et donc, lorsque Stravinsky, après le Sacre, en 1913, demande à Debussy ce qu'il pense vraiment de son Oiseau de feu, eh bien, Debussy, moins dithyrambique à la création, il aurait répondu « Voyez-vous, il faut bien commencer par quelque chose, sans doute juste, mais pas très flatteur », admettra Stravinsky. Voilà, commencer avec l'Oiseau de feu, c'était tout de même très bien commencé. Pouvions nous permettre un brin de familiarité, nous pourrions peut-être dire ça valait vraiment la peine de commencer Igor Fiodorovitch. L'émission se termine, il fallait bien commencer aussi cette nouvelle série de Mazette, quelle musique. Nous nous retrouverons la semaine prochaine, deuxième dimanche du mois, on le consacrera aux stars, et en l'occurrence, en ce mois de septembre, ce sera une émission consacrée à Brahms, notamment non seulement à Johannes Brahms, mais aussi à son oreiller et au célèbre hérisson rouge. Brahms, son oreiller et le hérisson rouge, vous avez une semaine pour résoudre l'énigme, voilà qui met un peu de piquant. Vous le savez, c'est sur la page Mazette, quelle musique du site de France Musique que vous trouverez toutes les références musicales, la réécoute, le podcast de cette émission et celles qui l'ont précédée. Grand merci à la fine équipe avec moi aujourd'hui, Laurent Lefrançois à la réalisation, Cédric Châtelus à la technique et bien sûr Nelly Portal. Très bonne semaine sur France Musique et dans moins d'une minute, ce sera Brut d'accordéon, ce sera même la première de Brut d'accordéon et vous allez l'entendre, ça commence très bien. Merci.
À réécouter sur francemusique.fr.